Voilà, je vous invite à lire à présent quelques textes. Nous allons méditer sur un aspect de ce qui nous est dit de notre Dieu. Et nous lisons d'abord dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 44, les versets 6 à 8. Ésaïe 44, versets 6 à 8, c'est à la page 821 dans les Bibles qui sont devant vous. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui le rachète. L'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est pareil à moi? Qu'il le proclame, qu'il le révèle et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne te l'ai-je pas dit depuis le commencement, annoncé et révélé? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Puis un peu plus loin, chapitre 48, les versets 12 à 15. Le Seigneur atteste de nouvelles prédictions, il annonce qu'il va... que son peuple va connaître l'exil, qu'il y aura un libérateur. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, toi que j'ai appelé. Je suis toujours le même. C'est moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier. C'est ma propre main qui a fondé la terre, ma main droite qui a déployé le ciel. Il suffit que je les appelle et ils se présentent tous ensemble. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez. Qui parmi eux a révélé cela? Celui que l'Éternel aime, et il s'agit là de Cyrus, dont il annonce l'action, accomplira sa volonté contre Babylone, et son bras pèsera lourdement sur les Babyloniens. C'est moi, moi qui ai parlé, moi qui l'ai appelé, je l'ai fait venir, et son entreprise réussira. Et puis nous retrouvons ces mêmes mots dans le livre de l'Apocalypse, une vision du Christ glorifié par l'apôtre Jean, Apocalypse 1, versets 17-18, page 1400. À cette vision, je tombais, dit l'apôtre Jean, à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. » Et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et puis un tout dernier texte qui est tout à fait à la fin du livre de l'Apocalypse, à la fin de la Bible, page 1420, Apocalypse 22, versets 12 à 13. C'est encore le Seigneur Jésus qui parle. Voici je viens bientôt. Et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Comment aborder les étapes et les différents temps qui font la trame de notre vie? Nos temps sont singulièrement entremêlés. D'un point de vue extérieur, il semble principalement déterminé par un certain nombre de rythmes. Ils sont faits de matin, de soir, de semaine, d'année. Plus près de notre vécu personnel, nous connaissons les rythmes réguliers du travail, de nos loisirs, de nos engagements. Certains projets s'invitent parfois sous forme d'orientation nouvelle, d'engagement proposé, de changement qui s'impose. Et voilà que tout s'anime. On rêve, on se projette, on s'inquiète, on se sent déstabilisé, ou au contraire, on se sent des ailes. Nous sommes marqués aussi par les événements de notre monde, tout ce qui nous entoure, tantôt heureux, tantôt écrasant, fait d'engouement et de mode, parfois bien futile, comme de macrostructures invisibles et inaudibles, mais terriblement efficaces pour imposer des réalités parfois très lourdes. Tout cela fait notre vie. Tout cela fait la trame de notre vie. Comment aborder ces étapes? Comment aborder ces temps? Nous les vivons, nous en avons parfois bien peu de maîtrise. Bien sûr, nous nous organisons, nous structurons notre vie, nous faisons des projets, nous poursuivons des objectifs, mais nous savons aussi qu'il faut, très peu parfois pour que tout bascule. Un instant, un événement peut remettre en cause et en question un avenir bien programmé. Nous avons lu cette affirmation du Seigneur, « Je suis le premier et le dernier ». Et c'est cette affirmation que j'aimerais mettre en place, en face de ce que nous vivons, de cette trame de notre vie. C'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur Dieu, l'unique face aux idoles dans l'Ancien Testament. C'est le Seigneur Dieu, l'unique venu vers nous en Jésus dans le Nouveau Testament. Quelle perspective nous apporte cette vision de notre Dieu? Parler du premier et du dernier, c'est adopter une perspective où l'on envisage des commencements et des fins. Des fins, des commencements, nous en connaissons beaucoup dans notre vie. Ils font partie des éléments qui, si on y réfléchit, structurent vraiment la trame de notre vie. Les commencements d'abord. Les commencements peuvent prendre plusieurs teintes. Ils sont souvent pleins d'espérance, pleins d'anticipation. On espère le meilleur. Il arrive aussi que les commencements soient un peu teintés d'angoisse. Le commencement d'une étape que l'on sait incertaine ou difficile n'est pas facile du tout. Et il arrive que l'on aborde de tels commencements un peu à reculons. Les fins, elles, sont en général plus claires, plus nettes. C'est le temps des bilans, le temps des aboutissements. La fin dit la vérité d'une chose, bien plus que son commencement. Certaines fins sont plus heureuses que ne laissaient présager leur commencement. C'est le miracle des happy ends. D'autres fins arrivent sans surprise, dans la juste logique des choses. On parle alors de la chronique d'une fin annoncée. Mais parfois la fin surprend, prend de court, déjoue tous les pronostics. Et c'est pourquoi l'Ecclésiaste nous dit avec sagesse, « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. » Ça ne semble pas tout à fait vrai pour tout. Qui dirait cela des vacances, par exemple? On a envie de tout sauf de la fin. N'empêche, si on pense à nos vacances, si on pense à tout ce qu'elles peuvent apporter, la fin des vacances vaut mieux que leur commencement si on est mieux après. Des commencements, des fins. Il m'arrive parfois de penser à ma vie comme à une série de boucles. On commence une chose et on la termine. On repart, on revient. Le soleil se lève, le soleil se couche. C'est impressionnant quand on essaye d'y réfléchir, de les identifier, le nombre de boucles dans nos vies que l'on peut identifier. C'est une vraie réalité. C'est quand même une vision des choses qui peut aussi être trompeuse et réductrice. Car une fois qu'on a repéré une boucle dans notre vie, il ne s'agit pas de dire simplement « il y a eu un commencement, il y a une fin, on est parti, on revient ». La question suivante à poser est « mais que s'est-il passé entre le départ et l'arrivée. Et si je reviens à un point de départ, ai-je gagné quelque chose? Ai-je construit quelque chose? Il y a des boucles, bien entendu, mais qu'apporte cette boucle? Et ce regard-là est très important, qualitativement, de dire ce qu'a apporté une boucle de notre vie. Car autrement, il pourrait sembler que tout se répète comme cela, à l'infini. Chaque lundi matin, je vais courir. J'ai un beau circuit au Bois de Boulogne, je l'aime beaucoup. Mais chaque lundi matin, je fais exactement le même circuit. Mon point de départ, mon point d'arrivée sont les mêmes. Je peux vous réciter la boucle dans tous ses détails, ça fait 14 ans que je la fais. Mais entre les deux, entre ce départ, cette arrivée, il y a la joie de l'effort. Il y a le bonheur de ce temps qui n'appartient qu'à moi. Il y a le bienfait que cela m'apporte. Et cela, c'est tout autre chose que de dire simplement « je suis parti, je suis revenu à mon point de départ ». Et cela, je le fais chaque semaine, et je peux dire que ça nourrit pas mal de choses dans ma vie chaque semaine. Certains voient toute la vie, toute la réalité, comme une immense boucle repliée sur elle-même. Le commencement et la fin sont identiques. Ce qui est premier, c'est ce qui sera dernier. Car tout retourne à son origine. C'est, vous le savez, la pensée orientale qui dit cela. La pensée hindoue affirme cela. La réalité est comme un foyer de braise ardente. Quelques étincelles jaillissent de ce foyer, semblent exister, c'est notre vie. Elles sont là en suspension et elles retombent dans le foyer originel. Et c'est là seulement qu'elles ont leur réalité. L'existence propre de ces braises n'était qu'illusion. L'unique réalité, c'est le foyer initial auquel tout revient. Le commencement, la fin, tout revient sur soi-même. Le premier, le dernier, le commencement, la fin d'une chose. Un nouveau commencement, une nouvelle fin. Sous ces mots simples, c'est juste le sens de notre vie que nous évoquons. Sur quoi débouche-t-elle? Que réalise-t-elle? Qu'est-ce qui permet d'aboutir? Je suis le premier et le dernier, dit le Seigneur. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Comment recevoir cette parole? Que signifie-t-elle vraiment? Il y a d'abord, il faut le reconnaître, un sens absolu à cette expression. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu, dit le Seigneur. Cette parole s'inscrit dans le cadre de la dénonciation des idoles, où le Seigneur s'affirme vraiment par ces mots comme le seul et unique vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y a rien, il n'y a personne qui puisse revendiquer le titre de Dieu. Il y a bien sûr d'autres divinités. Mais ces divinités ne sont que des projections humaines, des projections qui n'ont pas de consistance, pas d'autre réalité que ce que forge l'esprit humain. Pour les gens, elles sont des dieux, mais en elles-mêmes, elles n'ont aucune substance. Isaïe montre cela d'ailleurs en se moquant de la fabrication concrète des idoles où on prend du bois, etc., pour les assembler, les clouer, les faire tenir debout. Cette fabrication matérielle, il s'en moque, mais pas simplement en tant que telle, mais il s'en moque pour dire, elle dit vraiment le fait que toutes ces divinités ne sont que des constructions de l'esprit humain. Et dans ce contexte, quand le Seigneur se déclare le premier et le dernier, c'est une façon de dire, il n'y a que moi. Je suis l'unique Seigneur. C'est moi et moi seul qui possède ce qui fait que Dieu est Dieu. Il n'y a personne d'autre à côté. Je suis le premier, mais aussi le dernier, car je suis l'unique. Et voilà un discours qui heurte ce que l'on entend, ce que l'on dit aujourd'hui. Car aujourd'hui, autour de nous, il n'y a que des spiritualités. C'est le seul discours que l'on entend. Parler de spiritualité, c'est ça quand même le grand discours. C'est partir de l'homme, partir de ses aspirations, partir de son besoin de croire. Et c'est vrai que si l'on part de là, aucune spiritualité ne peut vraiment s'affirmer décisivement supérieure à une autre. La grande question pourtant est de savoir si le besoin de croire crée juste son propre apaisement, ou si ce besoin de croire rencontre un vis-à-vis réel, un vis-à-vis distinct de nous. Et c'est cette question que posait Ésaïe dans sa lutte contre les idoles, contre ces fabrications humaines liées à notre seul besoin de croire. Il y a un vrai vis-à-vis. Quel est le vis-à-vis de notre besoin de croire? L'intransigeance du Seigneur à dire « Je suis le premier et le dernier, hors de moi il n'y a pas de Dieu » est un appel salutaire. Un appel qui nous dit « Assurons-nous que nous plaçons notre foi en ce qui mérite notre foi, en ce qui a la consistance d'un Dieu vivant et vrai. » Mais comment savoir qui est ce Dieu vivant au milieu de tant de croyances? La réponse d'Ésaïe est que le Dieu vivant est un Dieu qui s'atteste dans l'histoire. Il est le premier. Il est à l'origine de toute chose. Il met en œuvre des projets qui sont les siens. Il est le dernier. Ce qu'il décide, ce qu'il annonce, il l'accomplit aussi. Non seulement donc le premier et le dernier parce qu'il est l'unique, mais le premier et le dernier également à cause de son action dans l'histoire, où ce qu'il commence, ce qu'il projette, il le réalise et il l'achève. Ésaïe a ici un message très particulier. Israël est tenté par l'idolâtrie, et pour bien marquer sa différence, le Seigneur annonce 130 ans à l'avance qu'il y aura un exil à Babylone, puis un retour de l'exil. Juda, à ce moment-là, est encore dans son pays. Babylone n'est pas encore à ce moment-là la puissance dominante. Ésaïe donne même le nom du souverain par lequel ce retour s'accomplira, un membre de la dynastie perse des Cyrus. Les Perses, à ce moment-là, n'étaient pas du tout sur les devants de la scène politique. Dieu prend les devants. Dieu annonce des choses qui ne sont pas encore. Et il précise, « Je t'annonce dès longtemps ces événements, je te les fais entendre avant qu'ils n'arrivent, afin que tu ne dises pas « c'est mon idole qui les a faits ». Dieu s'atteste vraiment de cette façon-là. Dieu s'atteste comme un Dieu d'initiative, qui a fait des promesses, qui les accomplit dans l'histoire, qui accomplit dans notre histoire ce qu'il dit. « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, dit ce Seigneur-là. C'est moi qui suis le premier, c'est moi aussi qui suis le dernier. » Dieu agit dans l'histoire. Ce Dieu qui s'atteste, s'affirme comme le premier, le dernier, agit dans l'histoire. Et agir dans l'histoire, c'est d'abord, notons-le bien, vouloir qu'il y ait une histoire. Et c'est la vision biblique de Dieu. Il est le Créateur, celui qui donne existence, celui qui donne vie. Après avoir créé les êtres vivants, il les bénit, c'est-à-dire il leur donne un avenir. Il veut pour eux cet avenir. Il forme des projets pour cette humanité qu'il a créée. Il fait avancer l'histoire. Il veut qu'elle avance. Il la tire en avant vers des rendez-vous qu'il lui fixe lui-même. Il fait travailler mille et une choses dans ce sens. Il intègre nos décisions, il intègre nos actions dans ce projet qu'il mène, il en a la capacité. Il suscite et accompagne des initiatives qui deviennent des pièces d'un puzzle que lui-même forme et dont lui seul a la maîtrise. Il agit directement là où il le faut, intervenant dans l'histoire. Il maîtrise les petits aiguillages qui feront la différence au temps voulu. C'est l'action de Dieu telle qu'elle nous est présentée dans la Bible. Mais avec tout cela, l'histoire est tout sauf une boucle qui se referme sur elle-même. L'histoire devient un projet qui se construit. Et la fin est différente de l'origine. Les temps marchent vers une réalisation. Notre vie elle-même prend sens dans ce mouvement. Nos actes comptent, sont intégrés, deviennent significatifs. Les boucles de nos vies ne sont pas un bégaiement, mais elles participent à une construction, même là où nous ne saisissons pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est moi qui suis le dernier, dit le Seigneur. Le premier, c'est moi aussi qui suis le dernier. Dieu veut qu'il y ait une histoire. Et c'est un magnifique cadeau qu'il nous fait, un cadeau qui nous délivre du non-sens, en tout cas du non-sens fondamental. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait aucun non-sens dans notre vie. À cause du mal, le monde a été soumis à la vanité, à l'impermanence, à bien des choses qui n'aboutissent pas, qui se délitent parfois. Mais le Seigneur surmonte ces segments de non-sens en les intégrant dans une œuvre plus grande qu'il réalise et qu'il connaît. Le premier, le dernier, celui qui veut que le monde marche vers quelque chose qui a du sens, ce Dieu qui veut qu'il y ait une histoire. Dieu veut cela, mais il vient aussi pour nous montrer qu'il est autre chose qu'une simple idée humaine. Et cela, il le manifeste en agissant lui-même dans l'histoire. C'est ce qu'il a fait à des moments clés de l'histoire des hommes, pour nous donner des repères clairs où il s'atteste. Dieu intervient dans des situations humainement impossibles pour réaliser ses promesses. Il donne ainsi à Abraham la postérité qu'il lui avait promise, alors qu'il était dans l'impossibilité totale. Et parfois Dieu permet pour nous aussi ces situations d'extrémité pour attester que c'est lui qui est lui seul qui peut intervenir dans notre vie. Dieu s'est manifesté par des actes puissants, comme la sortie d'Égypte qui devient une sorte de paradigme de son action. Il accomplit ce qu'il avait prédit bien à l'avance, comme le retour de l'exil grâce à Cyrus, le roi de Perse, dans le texte que nous avons lu, annoncé par Ésaïe. Il s'atteste en Jésus, Jésus qui revêt notre humanité, Jésus qui manifeste en tous ses actes le règne et la puissance de Dieu, Jésus qui accomplit toutes sortes de prophéties jusque dans le détail qui avait été faite le concernant et qui montre que vraiment Dieu est là, que Dieu accomplit ce qu'il avait dit. Il s'atteste enfin et magnifiquement par la mort et la résurrection de Jésus-Christ au cœur de notre foi. Résurrection du Christ, l'événement le plus décisif de notre histoire humaine, qui dit que vraiment Dieu est là, qu'un Dieu transcendant est capable d'agir dans notre histoire et qu'il agit d'une façon qui n'est pas simplement dépendante de notre besoin de croire, mais qui s'atteste dans ses actes à lui. Il s'atteste aussi dans nos vies par l'action de son Esprit qui crée en nous des dispositions nouvelles dont nous n'avons pas les ressources. Et chaque fois que nous voyons que, en réponse à notre prière, Dieu agit en nous, c'est encore une façon dont Dieu s'atteste dans notre histoire. Et il se manifestera de manière pleine et visible lors du retour en gloire de notre Seigneur Jésus. Et on comprend que le Seigneur glorifié reprenne à son compte ses paroles d'Ésaïe : « Je suis le premier et le dernier et le vivant. » Je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et c'est ici, une fois que nous avons posé ce grand cadre qui compte tellement, que nous pouvons laisser résonner ces choses en nous. Je suis le premier, dit le Seigneur. Et nous voilà tout chavirés en laissant résonner vraiment cette parole en notre cœur. Je suis le premier. Tout vient de lui. Quoi que je connaisse de beau, quoi que je connaisse de bon, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui me le donne. Quoi que j'admire de sagesse et d'intelligence dans le monde, c'est sa sagesse, c'est son intelligence. Toute cette complexité magnifiquement ordonnée de l'infiniment grand à l'infiniment petit, c'est encore lui. Et pour moi-même, moi qui suis là, avant que je n'existe, déjà, il me connaissait, déjà, il me voulait. Il est le premier par rapport à moi dans ma vie. Il m'a aimé le premier. C'est lui qui m'a cherché pour que je m'ouvre à lui si je lui ai ouvert ma vie. C'est lui qui me donne faim et soif de lui. C'est lui encore qui me fait les promesses de la vie éternelle. Et ce n'est pas juste un beau rêve que nous nous fabriquons. C'est lui qui nous le dit, c'est lui qui nous le donne. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui réconcilie. Il est le premier, tout est de lui. Et tout est grâce, tout est cadeau, authentiquement cadeau. Je suis le premier, dit le Seigneur. Il est le premier, mais il est aussi le dernier. C'est lui qui aura le dernier mot, le mot qui compte, le mot de la fin sur toute chose. Je sais que mon Rédempteur est vivant, disait Job, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, même si cette terre est la poussière. Pour nous aussi, il sera le dernier. Nous ne savons pas ce que nous réserve notre avenir, mais nous savons que si nous lui remettons notre vie, il aura le dernier mot pour nous. Il ne nous laissera pas en plan, il accomplira ses projets pour nous. Sa parole ne restera pas sans effet dans notre vie, elle exécutera sa volonté, elle réalisera ses desseins. Il ne laissera pas ses promesses pour nous se déliter. Il les a faites le premier, il en assurera le dernier, l'accomplissement. Son œuvre aussi, et il l'achèvera. Il la rendra parfaite en nous, au jour de Jésus-Christ. Notre Seigneur n'est pas simplement le Dieu des commencements flamboyants et des promesses étincelantes. Il honore ses promesses. Il veille sur sa parole, il persévère dans ses engagements, il fait aboutir ce qu'il commence. Pour nous aussi, en toute chose, il veut être le dernier. Pour nous aussi, en toute chose, il sera le dernier. Et nos temps, dans leur diversité, avec leurs différents segments, se situent entre ces deux repères qui demeurent. Le repère de la grâce et de l'initiative du Dieu qui est le premier. Le repère de la persévérance et des aboutissements de notre Seigneur qui est le dernier. Et ces deux repères ne sont pas simplement les repères du tout commencement, du tout premier commencement et de la toute dernière fin. Car de tant de manières et dans tant de situations, le Seigneur veut se montrer encore pour nous comme le premier et le dernier. Celui qui a le premier et le dernier mot. Parfois, les deux bornes entre le premier et le dernier mot seront assez rapprochées, parfois plus distantes. Cela ne nous appartient pas. C'est lui, le premier et le dernier. Mais nos temps, dans leur diversité, avec leurs divers segments, ces temps s'éclairent dans ses perspectives. Ces temps sont appelés donc pour nous, si nous savons qu'il est pour nous le premier et le dernier, à devenir le temps de la confiance, le temps de la confiance en ce Dieu qui est initiative et aboutissement. Nos temps sont appelés à devenir aussi le temps de l'attachement envers celui qui s'est si généreusement attaché à nous. Nos temps seront parfois les temps de l'attente. Si la promesse tarde, attends-la, disait le Seigneur à Habacuc. Nos temps seront ceux de la persévérance entre le premier et le dernier, entre les commencements et les aboutissements, mais d'une persévérance sereine, comme celle des guetteurs qui comptent sur le matin. Nos temps pourront être les temps de la foi agissante, parce qu'elle repose, parce qu'elle s'appuie sur ce Dieu qui accompagne, qui est fidèle à ses promesses. La foi peut agir. Les temps de l'intercession, où il faut, oui, lutter, se battre, mais prendre part de cette façon à l'œuvre que Dieu fait. Les temps de l'humble dépendance de chaque jour. Fais-moi dès le matin entendre ta bienveillance, car je me confie en toi. Que ton bon esprit me conduise sur une terre aplanie. La prière d'un matin. Le temps de la sérénité aussi, parce que nous savons en qui nous avons cru. Entre ces deux bornes de l'action de notre Dieu, nous le savons, nous ne serons jamais seuls, nous ne serons jamais abandonnés. Et qu'il est bon d'entendre le Seigneur Jésus compléter la formule d'Ésaïe en disant « Je suis le premier et le dernier et le vivant. » Et le vivant. Celui qui parle ainsi, c'est le Seigneur Jésus. Après s'être manifesté dans notre histoire par son incarnation, après nous avoir montré sa solidarité totale en vivant notre vie, en assumant notre condition humaine, après avoir achevé parfaitement l'œuvre du salut par sa mort et sa résurrection, après avoir été remonté au ciel où il prépare les nouveaux cieux, la nouvelle terre. En tout cela, il s'est attesté vraiment comme le Seigneur, comme l'unique, comme le premier, le dernier en qui tout s'accomplit. Mais ce premier et ce dernier s'affirment comme le vivant. Et le vivant, pas juste loin de nous, mais comme le vivant qui marche au milieu de son Église. C'est dans ce contexte que le Seigneur se dit le vivant. Comme le vivant qui tient dans sa main celles et ceux qui lui appartiennent. Il est l'alpha et l'oméga. Il conduira l'histoire jusqu'à son terme. Il la fera nouvelle, absolument nouvelle, éradiquée de tout mal. Mais jusqu'à ce terme, et au travers de tous les commencements et de toutes les fins qui constituent notre existence, nous sommes et nous restons dans sa main. Et parce qu'il reste le vivant à tout moment, il nous accompagne, il nous soutient, il garde son regard sur nous. Je suis le premier et le dernier, dit le Seigneur, notre Dieu. Quelle force pour nous, quelle perspective pour avancer, quelle base pour nous mettre en œuvre, pour espérer, pour agir. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Amen.